assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. On rencontre des gens au temple de Maguelon, ou ailleurs d'ailleurs, et on a l'impression qu'ils ont toujours été là. De ces vieux protestants qui font en quelque sorte partie des meubles. C'est un peu le cas de Claire Bosque, dont le nom évoque une lignée huguenote. Et pourtant, Claire, que je reçois aujourd'hui, dégage un parfum d'exotisme. Alors, bonjour Claire.
Bonjour.
En fait, vous n'avez rien d'une descendante huguenote vous-même.
Non, je ne suis pas du tout des Cévennes, etc. C'est plutôt huguenote de Prague ou comme... Voilà.
Voilà, alors de Prague, c'est-à-dire
oui. C'est-à-dire que mon père a fait ses études de théologie chez les frères de Prague,
ouais.
Les frères chrétiens, et voilà, et après est venu en France pour la maison des missions.
Donc il était tchèque, votre
il
père
était
est tchèque.
Tchèque, oui.
D'accord, et votre mère?
Alors, mon père est tchèque, mais né en Croatie.
D'accord.
Sur une île,
okay.
Voilà. Ma mère était d'origine écossaise. Son grand-père est venu dans la région de d'Amiens, à Ailly-sur-Somme, pour construire une entreprise de jute. Voilà, donc une maison, une usine avec cette idée de paternalisme qu'il y avait à l'époque.
Oui.
Donc, il avait construit une crèche, etc., etc., pour tous ces ouvriers.
C'était donc des entrepreneurs chrétiens, des entrepreneurs
oui.
protestants.
Protestants, oui.
D'accord.
Oui.
Et alors, ils se sont rencontrés en France, enfin, ou au Cameroun, puisque vous êtes né au Cameroun.
Oui,
vous m'avez
alors
dit.
Mes parents se sont rencontrés à la maison des missions.
Oui.
Ma mère devait partir à Madagascar,
ouais.
et lui, bon, au Cameroun. Donc, en fait, ils sont partis au Cameroun.
D'accord.
Voilà.
Et donc, alors, vous pouvez dire votre nom, en fait ?
Mikolasek.
Mikolasek.
Voilà.
D'accord, ça fait très tchèque.
Oui.
et vous avez toujours de la famille, là-bas ?
Oui, j'ai toujours des cousins qu'on voit régulièrement.
D'accord.
Oui.
Ok.
Oui.
Et est-ce que... Bon, vous êtes né au Cameroun.
Mmh.
Et vous y êtes resté jusque...
Jusqu'à l'âge de 8 ans.
Ouais.
Et à 8 ans, comme pour l'école, c'était pas facile, on nous envoyait au Chambon-sur-Lignon.
Ouais.
Voilà, moi, je n'y suis restée que 3 ans, contrairement à mes frères et sœurs qui sont restés jusqu'à leur bac, etc.
Et alors, au Cameroun, vous avez des souvenirs ou c'est trop...
Ah oui, non, j'ai quand même quelques souvenirs. Dans le Bamileke...
De quoi ?
Dans la région du Bamileke,
ouais.
à Douala,
ouais.
à Ndongué,
ouais.
où je suis née.
Ouais.
Ah oui, oui, j'ai des souvenirs.
Et il y avait une vie d'église là-bas, puisque vos parents
oui.
étaient
ben, mon père, à Ndongué, a monté d'abord une imprimerie et a fait construire une église. Voilà.
Et vous étiez donc à l'école biblique là-bas, ou c'était peut-être plus
non.
cool ?
Non, oui. Non, il y avait pas. Il y avait ma autre mère qui nous faisait un peu l'école biblique, mais
oui.
voilà, il n'y avait pas d'école biblique. On n'était pas avec les voilà.
Oui. D'accord. Et donc après, c'est le Chambon-sur-Lignon. Alors
oui.
là, c'est autre chose.
Le Chambon-sur-Lignon, oui, on était dans une pension pour les enfants de missionnaires.
C'était le collège Chévenol.
La pension, c'était le home, et en fait, on allait ou à l'école primaire,
ouais.
ou au collège en étant plus grand.
D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le Chambon-sur-Lignon, c'est une petite bourgade dans les Cévennes, dans le nord.
Non, pas dans les Cévennes, c'est plutôt beaucoup plus haut.
Oui.
C'est dans la Haute-Loire.
Oui, oui, oui. Mm. Et bon, c'est un collège, enfin le collège Chévenol, c'est un collège qui est célèbre par l'engagement qu'avait le pasteur Trocmé, voilà, pendant l'occupation, qui a sauvé des enfants juifs. On le voit dans un film, je crois que c'est pas
oui.
le voir les enfants, c'est
oui,
ça.
Oui.
Oui. Donc vous avez été au Chambon-sur-Lignon, qui était un vrai foyer protestant.
Ah, très. Oui. Oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et c'était comment Comment réagit une petite fille qui vient d'Afrique avec ses parents et puis qui se retrouve le soleil, tout ça. Bon, Chambon-sur-Lignon, il y a du soleil, mais enfin, moins quand même. Comment ça se passe? C'est difficile? C'est...
Pour moi, ça n'a pas été trop difficile, beaucoup moins difficile qu'avec mes frères et sœurs.
Ouais.
Que pour mes frères et sœurs. Pour moi, non, j'ai vécu ça pas trop mal. Puis en fait, ce que j'ai le mieux vécu, c'était quand il y avait de la neige, les descentes en luge du collège jusqu'en bas du village.
Oui, voilà. Effectivement.
Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai.
Oui, c'est différent de l'Afrique. Et alors là, vous suivez une éducation religieuse, je
pense. Oui,
oui.
Ah oui. La directrice qu'on avait nous faisait chanter chaque fois, et puis après on allait à l'école biblique au temple. Et
ouais.
Voilà.
Et vos frères, donc, étaient avec vous? Il y avait la famille, en quelque sorte?
Pas complètement, non. Parce que les garçons, à partir de 12 ans, étaient envoyés au collège dans les baraquements.
Ouais, d'accord.
Voilà. Mais il y avait ma sœur aînée. J'ai eu aussi mes deux petites sœurs qui sont venues, mais ponctuellement.
Donc,
voilà, parce qu'en fait, mes parents, on était sept.
Oui.
Mes parents revenaient tous les 3 ans.
Ouais.
Du Cameroun, ils avaient une année de repos, si on peut dire.
D'accord.
Bon, pas de repos, parce que mon père faisait beaucoup il allait voir beaucoup de paroisses pour expliquer ce qu'il faisait Cameroun.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Mais vous aviez pu quand même recréer une famille, enfin vous aviez quand même une famille autour de vous, c'était pas trop dur, donc Et le fait de voir les parents qu'une fois tous les 3 ans, ça...
Mais c'est pas facile.
Non,
c'est pas facile. Ouais. On se retrouvait en famille à ce moment-là, mais on se connaissait pas.
Ouais.
Voilà. Et à la fin, quand ils sont venus à Montpellier, avec mes frères et sœurs, les deux plus grands, eh ben, on se connaissait, pour ainsi dire, pas.
Ouais.
Voilà, puisqu'en fait, on a 18 ans d'écart entre mon petit frère et mon frère aîné.
D'accord. Et alors, comment ça se... comment on recrée des liens fraternels quand on ne s'est pas connu? Est-ce que c'est vraiment des liens fraternels? Est-ce que c'est des liens amicaux?
Si, c'est des liens fraternels.
Ah ouais?
Oui, oui, oui.
Oui,
ouais. Oui, on était de la même famille. Et, oui.
D'accord.
Et on était, à Montpellier, on était quand même tous ensemble. Et donc,
vous avez recréé la famille ou continué à créer. Et là, donc, après, c'est Montpellier.
Oui. Après, c'est Montpellier.
Et Montpellier, c'est toute votre vie, finalement?
Si on peut dire, oui, presque, parce que je suis quand même partie 30 ans sur Téhéran.
Oui.
Voilà. Pas Téhéran, Téhéran.
Ah, c'est où, alors?
C'est à côté de Castelnau, là-bas.
Ah oui, oui, oui. Oui, mais enfin, c'est Montpellier.
Non,
enfin.
Oui, c'est Montpellier.
Enfin, c'est la région de Montpellier.
Oui.
Et alors, et puis vous avez rencontré votre
époux. Mon époux, oui.
Parce que
À
la Gerbe. Alors, vous pouvez expliquer ce que c'est que la Gerbe?
Alors, la Gerbe, c'est une association qui a été créée il y a plus de 100 ans.
Ouais.
Pour justement réunir tous les jeunes, etc., de Montpellier pendant la guerre au début, et puis après. Et donc, il y avait du scoutisme, il y avait des groupes de jeunes, il y a eu du théâtre, il y a eu plein de choses à la Gerbe, et la Gerbe existe toujours, 19 rue Chaptal, et reçoit toujours des jeunes.
Ouais.
Voilà, elle reçoit actuellement, elle a une crèche, elle a un centre aéré pour les plus jeunes. Un groupe de un peu plus âgé là. Voilà, il y a toujours du scoutisme, et puis après c'est quelque chose qui existe toujours et qui est toujours conseil d'administration et toujours protestant.
Oui. Et alors la Gerbe, effectivement, moi j'ai un de mes beaux-frères qui a rencontré sa femme dans les groupes de jeunes.
Nous n'avions en fait presque que ça, parce qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'autres activités. Donc,
ouais.
Alors en fait, à l'époque, on venait au temple, rue Bruès, on allait après boire un petit pot au dôme, et après, on allait à la Gerbe.
D'accord. Voilà. Mais c'était pas triste.
Non, c'est très, très gai.
Ouais. Ouais. Et c'est marrant, ces lieux qui, finalement, faisaient qu'on restait dans la famille protestante.
Ouais.
C'est ça aussi qui a fait que le protestantisme...
Oui, et quand même... Et par contre, on va avoir justement une rencontre au mois de mai. On a une rencontre de tous ceux qui sont nés entre 40 et 50. Et qui vont fêter, il y en a beaucoup qui vont fêter leurs 80 ans. Donc, on se connaît presque tous.
D'accord, voilà. Ben il faudra nous le redire, qu'on l'annonce, qu'on l'annonce aussi dans nos informations. Et alors donc, vous êtes scout, vous aimez ça, c'est...
Ah oui, oui, ben, j'ai été d'abord petite zèle, parce qu'à l'époque ça s'appelait comme ça, puis après j'ai été aux éclaireuses, puis j'ai été cheftaine.
D'accord.
Voilà, cheftaine des petites zèles.
Et vous avez été, vous avez fait tout le circuit,
oui,
enfin,
Sauf les aînés.
Ouais.
Parce qu'après, je suis devenue cheftaine, donc je n'ai pas fait le groupe d'aînés.
D'accord, d'accord. Et au groupe de jeunes, alors, qu'est-ce qu'on y faisait?
Alors, le groupe de jeunes qu'on avait appelé Liaison 60.
Les quoi?
Liaison 60.
Liaison 60.
Ben, on faisait des sorties, on s'amusait. Bon, on faisait des booms, voilà, à l'époque, c'était...
Ouais. Une jeunesse protestante, mais gay.
Ouais, oui, très gay.
Pas austère.
Ah, pas du tout, non.
D'accord.
Pas du tout. Et c'était accompagné par Jean Daumont, qui était à l'époque pasteur à la Gerbe.
Oui, mais ça me dit quelque chose, ce nom. C'est quelqu'un qui a marqué le protestantisme.
Beaucoup de protestantisme, oui. Oui. Et sa fille, Ariel, est au cinéma chrétien.
D'accord, d'accord. Et alors, votre époux, qui n'est pas au départ votre époux, bien sûr, quand vous le rencontrez, il veut déjà être pasteur?
Ah non, il n'était pas pasteur, mon époux. Non,
ah, d'accord.
Non, il n'a pas été pasteur, mon époux.
Ah, bon, j'ai cru que vous étiez femme de pasteur.
Je ne suis pas femme de pasteur.
D'accord. Oui. Alors, donc, votre époux n'est pas pasteur.
Non.
Mais il a vécu...
Il a été à la Gerbe aussi.
Ouais.
Donc, après, il a trouvé un travail au niveau de Groupama.
D'accord.
Dans les assurances, voilà, parce qu'il a perdu son père à l'âge de 16 ans. Et donc, après, il s'est...
Mais vous étiez toujours dans le protestantisme,
très
actif.
Son père était à Maglone, au temple de Maglone, et il était dans le diaconat à l'époque.
D'accord.
Voilà.
D'accord, d'accord, d'accord. Mmh. Et donc, vous commencez une carrière, enfin, vous faites des études.
Moi, j'ai fait mes études d'infirmière.
Ouais.
Et puis, j'ai commencé en clinique, 5 mois, puis je me suis installée en infirmière libérale. À Montpellier, 8 ans, et après à Téran.
Et alors, pourquoi infirmière? C'était...
J'ai toujours voulu faire ça.
Ouais. Mmh. Et vous m'avez dit que le but, c'était d'aider les gens dans leur souffrance. Mmh. Est-ce que le fait d'être chrétienne,
Je pense. Oui. Le fait d'avoir eu des parents qui ont donné beaucoup, parce qu'en fait, dans la famille, on est tous presque dans le médical.
Ah oui?
Oui.
D'accord. En Afrique, vos parents faisaient du médical?
Non, ils ne faisaient pas spécialement du médical, mais ils nous ont toujours, je pense, enseigné d'aider les autres, etc. Quoi.
Oui, mais il y avait dans la mission, il y avait un dispensaire.
Ah, il y avait un hôpital même.
Oui.
Mais voilà, mais bon, ils n'étaient pas spécialement à l'hôpital.
Oui, oui. Mais enfin, ils connaissaient le problème de tout ça. Et alors donc, en tant qu'infirmière libérale, est-ce que comment agissait votre foi, votre spiritualité? Est-ce que vous le communiquiez ou est-ce que c'était pour vous une façon aussi de
supporter? Non, je ne communiquais pas trop, si ça m'arrivait, parce que souvent les personnes avec qui j'étais...
Oui, si les gens étaient en demande.
Oui. Et puis sinon, c'est pour moi surtout que c'était important aussi de pouvoir aider, de pouvoir soigner, etc.
Oui. Et alors, après, vous avez choisi un chemin plus difficile, parce que infirmière libérale, bon, vous avez de tout, je suppose, il y a des petits bobos, il y a des gros bobos,
mais il y a des patients qu'il faut accompagner jusqu'à la mort.
Voilà, oui. Mmh. Et après, vous rentrez dans un centre de dialyse.
Oui.
Là, c'est pas drôle.
Parce qu'en fait, j'ai eu des patients à domicile qui avait des dialyses, et parce qu'à cette époque, on faisait dialyse à domicile, et les conjoints ne pouvaient plus assumer la dialyse.
Ouais.
Donc, c'est moi qui allais assumer la dialyse pendant que 5 heures de dialyse. Voilà. Et je faisais ma tournée entre les deux, quoi.
Ouais.
Et puis après, mais bon, on se forme, pour ça. Donc, on est formé. C'est vrai que c'est pas toujours facile parce que je me suis retrouvée aussi en ce qu'on appelle unité de dialyse, où on avait 5 personnes qui dialysaient, donc on était seul à assumer ces 5 personnes.
Ouais.
Donc quand il y avait des problèmes de trucs, on n'avait que le téléphone pour appeler le médecin.
Ouais.
Voilà. Ah, et donc, bon, j'ai fait beaucoup là-dedans. J'ai fait un peu tous les services, donc...
Quel est le problème spécifique de ces gens-là? C'est le fait d'être, enfin, de se sentir complètement handicapé ou le fait d'être bloqué quelque part?
Non, ils sont pas complètement handicapés.
Ouais.
Ils sont surtout bloqués. Au moins, maintenant, c'est plus. Je crois que c'est que 3 heures.
Ouais.
Mais avant, c'était 5 heures d'affilée, quoi.
Ouais. Donc,
et trois fois par semaine.
Ouais.
Donc, ils avaient quand même un fil à la patte pour pouvoir voyager. C'est pas facile, il faut trouver d'autres centres, etc.
Ouais.
Mais voilà, donc c'est quand même une maladie et puis qui détériore petit à petit la personne, quoi.
Et donc, vous êtes resté combien de temps ?
7 ans.
7 ans ? Et après, donc, c'était...
Et après, j'ai pris ma retraite.
Après, c'était la retraite. Puis en même temps, donc, parcours traditionnel dans une paroisse. C'est pour ça que j'ai cru que vous étiez femme de pasteur, monitrice d'école biblique, groupe de cathé, tout ça, bon.
Parce qu'en fait, ma mère habitait à côté de moi, et donc, comme elle était très dans l'église aussi, du coup, elle m'a dit, bon, ben... Si tu peux faire le catéchisme à Téhéran, ça serait bien, etc. Puis après, j'ai mon cousin Louis Schlesing qui m'a embauché entre guillemets,
pour faire
le cathé, voilà.
Votre mère, elle avait appris le français, enfin, elle parlait français.
Ah, mais ma mère, elle était française, elle est née en France.
Ah oui, d'accord,
donc,
parce qu'elle est d'origine écossaise.
Elle est d'origine écossaise seulement.
D'accord.
Et mon
d'accord.
père parlait très bien français aussi, bien qu'il disait qu'avec son accent, personne ne comprenait, mais ça, c'est...
Et alors donc justement votre père là ça me fait évoquer des questions. Donc comment il avait connu le protestantisme? Il y avait
les frères tchèques, hein. Je pense que là-bas c'est comme ça à Prague qu'il a connu le protestantisme, et je pense que son père était protestant aussi, donc
C'était des groupes, c'était les descendants, je ne sais pas si vous le savez, des groupes unitariens, des groupes sauciniens, parce que je sais que il y a eu beaucoup de d'anti-trinitaires,
je ne sais pas du tout.
Lui était traditionnellement protestant, trinitaire, le père, le fils,
d'accord.
Et donc école biblique, cathé, en même temps que votre
travail. Oui, ça c'était quand je travaillais.
Ouais. Et comment vous articulez l'école biblique? Comment ça se passait? C'était à peu près en quelle année?
Oh, ça me demandait pas les années.
Non, en gros.
En gros, je sais pas. Je sais plus.
80?
Oui, peut-être quelque chose comme ça.
Comment ça se passait? C'était des expériences pédagogiques, parce que vous n'avez pas d'expérience d'enseignement particulière.
Non,
parce
pas
que
du tout.
Dans le médical.
Non, mais on avait des réunions avec les monitrices.
Ouais.
Justement pour préparer la séance, etc. Quoi.
Ouais. Et qu'est-ce que ça vous apportait alors, ces séances d'école biblique, de cathé? Parce que vous aviez déjà une famille.
Oui.
Vous aviez votre propre famille, des enfants.
Oui.
Ça vous apportait quoi de faire ça? C'était pour aider les autres ou c'était aussi pour vous?
Non, c'était aussi pour moi, de découvrir un peu plus aussi la Bible.
Parce que
la Bible, avec baignant dans le truc protestant, et donc ça me permettait aussi puis de travailler avec des enfants, quoi.
Ouais. Ouais. Et grosse différence entre... Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, l'école biblique, c'est pour les petits, c'est à partir de 6 ans. Hein.
Oui.
Et puis, le catéchisme, c'est...
C'est à partir de 11 ans.
Ouais, voilà, c'est l'âge du collège.
À partir du 6e,
Ouais. Et donc là, vous êtes en famille, et puis vous prenez d'autres activités... disons plus institutionnel par la suite, mais on va y revenir. On va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi donc Talking Blues de Bob Marley. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, si vous aimez ou pas?
C'est un souvenir de mon fils.
en souvenir de votre fils. Eh bien, nous allons écouter Bob Marley, Talking Blues. Après ce morceau de musique, on parlait, on avait évoqué donc d'autres activités, disons plus institutionnelles, c'est-à-dire vous avez participé au conseil de secteur du centre-ville. Oui. Alors, il faut rappeler peut-être que Montpellier, c'est une ville protestante. Enfin, c'est un secteur un peu compliqué parce qu'il y a un conseil presbytéral et il y a des conseils de secteur. Et donc,
parce qu'en fait, on a quatre secteurs à Montpellier qui se sont réunis. Et donc, chaque secteur a son conseil de secteur, mais qui n'est pas quelque chose de, comment dire,
de formel.
De formel, oui. Voilà.
Oui, c'est Marion Beylan qui était là il y a pas longtemps, nous en a parlé effectivement. En fait, c'est le conseil presbytéral qui est l'organe. Et le conseil presbytéral, vous y êtes
4 ans, j'y étais pendant 4 ans aussi.
Ouais. Et votre mari, il était aussi engagé dans l'église
Il est mort avant. Il avait commencé, après sa retraite, il avait commencé à faire quelque chose, mais en fait, il est mort.
D'accord.
À 60 ans, donc.
Oui.
Et je pense qu'il se serait bien engagé aussi.
Ouais. Et pendant sa vie professionnelle, il n'avait pas le temps?
Non, parce qu'en fait, il a été conseiller général aussi, donc il travaillait le matin et et il était conseiller général, conseiller municipal avec Georges Frêche, et après il a donné sa démission, il a été aussi conseiller général en même temps.
Donc religion et politique.
Voilà.
Et il avait un engagement, et, donc...
Oui, il avait un engagement politique comme il avait eu son engagement comme chef éclaireur.
Ouais.
Pour lui, c'était de pas faire de différence entre la droite et la gauche, etc. Donc, il aidait tous les gens qui pouvaient aider aussi. Et voilà.
Mais il était dans la mouvance de Georges Frêche.
Il était dans la mouvance de Georges Frêche, oui.
D'accord. C'est-à-dire gauche modérée. D'accord. Ouais. Et vous, ça vous intéressait ou pas ou...
Ben oui, parce qu'au début, j'allais aux réunions du Parti Socialiste, etc. Oui, ça m'a toujours intéressé. Je me suis même présentée une fois à Téhéran.
D'accord.
On a été battus. Voilà, mais bon, si. Et puis, c'est toujours... Ça a été notre vie, quoi, en fait.
Ah oui, d'accord,
Avec les enfants et tout ça.
Ah oui, c'était... vous étiez très engagée.
Moi, j'ai un peu moins, parce que j'ai mon travail, et que j'étais à Montpellier, là-bas à Téhéran. Mais dans l'ensemble, c'était... Ouais, moi, j'ai toujours aimé.
D'accord, et c'était
et la famille
la
aussi,
même chose,
d'ailleurs.
Oui.
Tous ici.
Ah oui.
Oui.
D'accord, et alors... bon, vous êtes conseillère presbytérale, vous avez été conseillère de secteur, vous avez été au conseil d'administration de la Gerbe.
Oui.
Donc c'est ce groupe de jeunes dont vous avez parlé. Et puis je voudrais revenir quand même sur votre parcours particulier, puisque vous êtes née en Afrique et puis vous m'avez dit avoir voyagé, alors que vous êtes restée sur Montpellier pour votre vie professionnelle. Mmh. Hein, Montpellier,
oui.
Téhéran, bon,
oui.
C'est le même
point. Oui, c'est le secteur.
Mais vous voyagez.
Ben, avec mon mari, on a voyagé, oui. On a fait des voyages personnels.
Dans quelle région du monde?
Oh, ben, surtout le Nord.
Ouais.
Dans le Nord, Stockholm et tout ça. On a été en Amérique aussi, au niveau des parcs.
Oui.
Voilà, tous ces parcs-là, on a vu, parce qu'en fait, à un moment, le Conseil général voulait faire quelque chose dans le coin, dans ce style-là.
D'accord.
Voilà, donc ça a été un voyage pour mon mari d'affaires, si on peut dire, et puis pour moi, ben, c'était des loisirs, quoi.
C'est-à-dire, vous mêlez toujours, finalement, religion, politique, vie personnelle,
ouais.
Et ça, vous pensez que ça vient de votre parcours aussi un peu particulier de...
Non, pas spécifiquement, c'est parce que, bon, mon mari s'est lancé dans la politique, on lui a demandé d'être conseiller général, et
ouais.
Puis du coup, moi, j'ai suivi, et puis...
Mais sans problème.
Sans problème.
Sans peur
non.
Des voyages,
non.
Parce que des fois, on se retrouve dans des milieux...
Oui.
Enfin, je suppose que d'avoir vécu en Afrique petite, ça vous a aussi...
Oui.
Vous n'aviez pas peur des petites bestioles.
Non. On a voyagé aussi avec mes enfants. On a fait plusieurs voyages avec mes enfants, donc le Canada et comme ça.
Oui. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans les voyages alors? Est-ce que ça vous enrichit votre spiritualité?
Ah oui. Mmh. De quelle manière, je sais pas trop, mais
ouais,
c'est quelque chose que surtout bon là, je voyage aussi tous les ans en Afrique, hein, parce que ma fille vit au Sénégal.
Ouais.
Donc ça c'est aussi quelque chose d'important.
Ouais.
Et je retrouve en fait.
Vous retrouvez votre...
Ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, quoi.
Ouais.
Et j'ai toujours ce lien avec des Africains. Par exemple, quand il y a des Africains au temple qui viennent, je suis toujours attirée, je les reçois et tout ça. Et j'ai des contacts avec eux assez...
Oui.
Il y a même un qui était un Camerounais qui était arrivé et qui est rentré au conseil de secteur.
D'accord.
Voilà, et puis il y a une autre jeune femme aussi qui pas grâce à moi, mais qui a accepté de rentrer au conseil de secteur.
Ah ben c'est bien, oui. Et votre fille, donc elle est en Afrique depuis toujours?
16 ans.
Depuis 16 ans.
Elle s'est mariée avec un Africain.
D'accord, et qu'est-ce qu'elle fait là-bas?
Elle est professeure de SVT.
Ah d'accord.
Dans le lycée français.
Et dans le protestantisme aussi?
Non, mon gendre est musulman, mais ma fille, pas du tout, bon. Elle est protestante, voilà.
Oui.
Sociologique, comme on dit.
Oui, d'accord. Ok, ouais. Donc l'Afrique, les voyages partout, et vous n'avez pas, et vous arrivez finalement à vivre toute votre vie à Montpellier. Vous n'avez jamais eu envie d'aller vous installer ailleurs?
Non. Il y a que peut-être il y a pas longtemps qu'on m'a proposé éventuellement, mais non, j'ai pas envie de partir et de perdre tout ce que j'ai autour de moi, tous mes amis, etc. J'ai quand même
oui, parce
pas
que...
mal d'amis, bon.
D'amis, oui.
Ah, oui, d'amis, oui.
Oui. Et vous continuez à travailler pour l'Église.
Oui.
Bon, vous avez quand même
20 ans.
Combien?
Ça fait 20 ans.
Ouais.
Sans compter l'école biblique, mais bon, ça c'était autre chose.
Ouais.
Mais voilà, ça fait 20 ans où j'ai toujours fait quelque chose. J'ai commencé par le cimetière.
Oui.
Après, mon
alors
mari,
le cimetière, coup, qu'est-ce que vous faisiez au cimetière?
Ah ben, le cimetière, on gère les dossiers, hein.
Ah,
il y
oui.
a quand même quelque chose, c'est très important de quand il y a des enterrements, quand il y a etc. Et puis de gérer tous les dossiers du cimetière.
Alors ça, cimetière, c'est quoi comme cimetière?
Le cimetière protestant.
Oui, le cimetière protestant.
Qui est privé.
Ouais.
Hein, que voilà, et donc on est des bénévoles à gérer ce cimetière.
Oui, parce que les histoires de cimetières, c'est très compliqué. Moi, j'ai discuté avec Jean-Daniel Roch, que vous aurez d'ailleurs, qui va être, l'émission va être diffusée prochainement, sur la loi de 2021, contre le séparatisme, etc. Et alors, on a parlé des cimetières, des lois sur les cimetières, et j'avoue que j'ai rien compris.
Mmh.
Et que lui-même m'a dit que c'était extrêmement compliqué en France, parce que depuis 1881, il devrait y avoir qu'un cimetière
avec
la laïcité.
Oui,
mais en fait, non.
Non, parce qu'en fait, souvent, ou c'est les mairies qui rachètent, qui reprennent le cimetière, mais nous, à Montpellier, on n'est jamais arrivé à donner le cimetière à la mairie. Ils n'ont jamais voulu.
D'accord.
Donc, en fait, on reste un cimetière privé.
D'accord. Donc, en France, il y a des cimetières privés.
Comme à Nîmes, comme à Bordeaux, comme à Castres, etc., il y a des cimetières encore privés.
C'est des cimetières protestants.
Oui.
C'est parce que les gens ne veulent pas ou ne peuvent pas être enterrés dans les cimetières. Ou ils ne veulent pas, je suppose. Pourquoi ils ne sont pas enterrés dans le cimetière municipal?
Ah, ben parce qu'ils sont protestants et qu'ils viennent. Voilà, hein, je pense qu'ils...
Ouais.
Ils ont envie d'être enterrés. Moi, j'ai ma tombe là-bas, j'ai ma famille là-bas, si on peut dire, entre guillemets.
Oui.
Voilà, et donc...
Oui, c'est curieux, cette histoire de cimetière. Bon, et donc, vous gérez les dossiers...
On gère tous les dossiers, et puis on suit les tombes. Quand il y a des tombes qui sont en déshérence, etc., ben, il faut trouver les descendants, c'est pas toujours facile, souvent on ne trouve pas, donc au bout d'un certain temps, on peut les revendre, on peut, voilà, parce qu'en fait, le cimetière protestant, c'est pas gratuit.
Bah oui.
On a une redevance tous les ans parce qu'on a un gardien qu'il faut
payer,
etc.
Oui, bien sûr. Et vous occupez aussi du carrousel, là où on est ce matin.
Alors là, maintenant, oui, le carrousel, j'ai été pas tout à fait au début, mais quand on a commencé à travailler sur ce projet, donc j'ai suivi tout ce projet et puis maintenant je suis encore dans ce projet en tant que au niveau du conseil d'administration en tant que secrétaire pour l'instant, mais bon, j'espère pouvoir m'arrêter bientôt, incessamment sous peu.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a à gérer au carrousel?
Alors là, il y a tout ce qui est activité, de recevoir, de voir si on est d'accord pour recevoir telle personne, puisqu'on a quand même une éthique, on a quand même...
Le carrousel, donc c'est ce centre protestant qui est rue Gambetta, et où il y a... Beaucoup d'activités.
Il y a beaucoup d'activités. Et on a accueilli des associations qui viennent régulièrement, comme la Corderie, comme AEV.
La Corderie, je sais qu'il y a une émission de prévue. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va passer, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais j'en ai entendu parler. Donc effectivement, il y a toutes ces associations.
La Corderie, c'est échange de services gratuit. Il n'y a pas d'argent qui circule. C'est simplement, on donne par exemple on fait une demi-heure de ménage et puis on va donner autre chose en échange.
Ah oui.
Voilà, c'est des échanges de services.
Et je suppose que on ne demande pas un certificat de baptême protestant.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est une association laïque, hein,
oui.
Donc ça a pas de.
Oui. Donc, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui se sentent seuls, qui se sentent, ils peuvent venir.
Ah oui, parce qu'ils ont beaucoup d'activités hein, dans la semaine. Je vois, il y a sur le tableau, il y a énormément d'activités de proposer, soit de la couture, soit des jeux, soit des voilà.
Alors, n'hésitez pas, ceux que ça intéresse, à venir vous renseigner au carrousel. Vous ouvrez la porte, vous rentrez et vous trouverez quelqu'un qui répondra à vos questions.
Voilà.
Et il y a des gens qui viennent comme ça, parce qu'il y a une grande salle, donc en bas, avec des petites tables style café, c'est sympa. Il y a des gens qui viennent comme ça parce qu'ils s'ennuient.
Quand il y a pas, non, pas trop. Il y a des gens qui passent, qui demandent qu'est-ce qu'on fait, etc. Bon, on a eu aussi la CIMAD pendant longtemps.
Oui.
Voilà, qui est restée là. Donc là, il y a encore quelques personnes qui arrivent pour aller à la CIMAD, mais bon, elle n'y est plus.
Ouais.
Et.
Il y a l'Armée du Salut aussi.
Il y a l'Armée du Salut, mais ça, c'est un bâtiment.
Ouais.
C'est une pension de famille de l'Armée du Salut. Puis au-dessus de nous, on a aussi des appartements, géré par GAM, avec des personnes en couple seules ou des enfants, avec des femmes avec des enfants, et qui en fait sont là pour 2 ans à peu près, jusqu'à ce qu'elles retrouvent un travail, qu'elles puissent retrouver.
Donc GAM, je le répète, hein, c'est une association qui s'occupe, qui fait du social.
Depuis de très nombreuses années, oui.
Et c'est d'origine protestante.
C'est d'origine protestante aussi, oui.
Oui, d'accord. Et donc tout ça, c'est au carrousel, et vous êtes donc toujours au conseil. Vous avez vécu les débuts, vous avez assisté au début de ce projet.
Oui.
Ça ne vous a pas embêté qu'on abandonne le temple rue Bruès?
Non, je trouve que c'est au contraire, c'est quelque chose qui permet, parce que ce temple, on avait 2 temples à Montpellier, à côté de la gare, et puis celui-là, et financièrement, on ne pouvait plus assumer non plus.
Oui.
Donc, on a choisi de garder le temple, puisqu'il est classé,
le
temple de la rue Maglone, et donc de construire là. Et moi, je trouve que, personnellement, je trouve que c'est très bien de pouvoir continuer. Dans ce temple, qu'est-ce qu'on aurait fait que des cultes ou comme ça? Là, on a ouvert sur le quartier, on a ouvert sur plein de choses, donc je trouve que c'est formidable.
En fait, les mutations de l'Église, ça ne vous fait pas peur?
Non, pas du tout.
Bon.
Les pierres, c'est que des pierres, hein, donc.
Eh bien, c'est sur ce message d'espoir, hein, comme les mutations de l'Église, ça ne fait pas peur, que nous allons rendre le micro. Merci beaucoup, Claire, de ce témoignage. Et puis, je remercie nos auditeurs. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à Un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.